travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Écoutez! Écoutez!
Silence!
Hannibal est en train de passer les Alpes. Garnisons sont partout en fuite.
Personne ne s'oppose à lui.
Non, sauf Rutanius.
C'est pourtant un ennemi résolu d'Europe.
Rutanius connaît bien ces montagnes, il retardera.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'espionnage dispute à la prostitution, paraît-il, le titre de plus vieux métier du monde. Et dans le même temps, il nous faut bien constater que la mondialisation et les nouvelles technologies viennent de lui donner un formidable coup de jeune. Il nous a été donné récemment d'apprendre que la NSA américaine écoutait sans vergogne les conversations des chefs d'État et de gouvernement les plus importants de l'Europe, dont Angela Merkel et naturellement les nôtres. Les réactions à cette nouvelle, qui eût paru bouleversante en d'autres moments, ont mêlé assez curieusement la résignation à l'indignation, comme si la chose était aussi naturelle qu'elle était choquante. D'autre part, la loi sur le renseignement, qui vient d'être adoptée par notre Parlement, s'est inscrite à la rencontre de deux préoccupations aussi légitimes que contradictoires. La défense de la vie privée des citoyens, au cœur de la démocratie, et la protection de cette même démocratie contre les assauts de tous ceux qui peuvent en haïr les valeurs, avec le risque angoissant de contredire en conséquence, de notre propre fait, ces valeurs elles-mêmes. Aucun de nos auditeurs fidèles ne s'étonnera, j'en suis sûr, que l'aigu de cette conjoncture m'ait donné l'envie d'aller voir dans l'Antiquité les précédents qui peuvent annoncer déjà les défis qui sont en passe de nous devenir familiers. Comment s'organisait le renseignement en ces temps-là, en Grèce et à Rome, en face des peuples amis et ennemis, et aussi à l'intérieur de la société, dans l'angoisse des complots et de la subversion. Maurice Sartre, professeur émérite d'histoire ancienne à l'université de Tours, est familier de notre émission. Une fois de plus, je vais faire fond sur sa science et sur le goût qu'il a d'en évoquer les échos contemporains.
Vous qui pensiez que vos conversations téléphoniques, vos textos, vos emails étaient privés, détrompez-vous. S'ils le souhaitent, les États peuvent tout savoir, tout entendre, tout surveiller, grâce à votre téléphone portable ou à votre connexion Internet. Scandale des temps modernes avec en première ligne la très puissante NSA, l'Agence américaine de sécurité. Voici l'une de ses toutes dernières bases secrètes perdues au beau milieu du désert de l'Utah. Sa mission, analyser des millions de données personnelles à travers le monde. Des programmes top secrets, mis au jour par un homme, Edward Snowden, 30 ans, un informaticien qui travaillait pour la NSA. Réfugié d'abord à Hong Kong, il affirme avoir participé à cette surveillance menée au nom de la sécurité.
Moi, en étant assis à mon bureau, j'avais le pouvoir légal de surveiller n'importe qui. Ça pouvait être vous, votre comptable, un juge fédéral ou le président si j'avais eu son adresse mail.
Et pour collecter ces données, la NSA n'aurait eu qu'à piocher dans les serveurs des géants d'Internet. Google, Apple, Yahoo, Facebook, dont les utilisateurs se comptent par millions, y compris en France. Rien n'empêche donc des citoyens français d'être espionnés par le gouvernement américain. Il suffit pour cela que vos recherches sur Internet ou les mots que vous employez au téléphone soient considérés comme suspects. Ce n'est plus de la science-fiction, mais bien une réalité.
Maurice Sartre, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre un reportage de Maryse Burgot sur la surveillance des communications par les agences de renseignement sur France 2 en date du 23 juin 2013. À propos de Snowden, on a envie d'évoquer une satire de Juvenal qui disait c'est la sixième, qui custodiet ipsos custodes, qui va surveiller ceux qui nous surveillent. Oui, je crois qu'il y a une grande différence malgré tout, même malgré le texte de Juvénal, entre l'Antiquité et le reportage qu'on vient d'entendre de Maryse Burgot. Dans l'Antiquité, et je pense que c'est resté longtemps comme ça, on est dans le bricolage du renseignement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisation centralisée, plus ou moins centralisée, mais on sait que il y a aussi des organisations concurrentes dans tous les États, d'agences qui cherchent du renseignement. N'imaginons pas qu'il y a l'équivalent de la NSA ou de la CIA ou du FBI ou de la DGSE à Rome, en Grèce ou dans l'Empire perse ou dans l'Égypte pharaonique. Ça,
mais j'espère bien néanmoins qu'il y a des ressemblances. Sinon, nous arrêtons tout de suite.
Non, Dieu merci, il y a des ressemblances. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de système centralisé et automatique. Mais la recherche de renseignements, elle est permanente. Et en fait, je dirais qu'il y a deux aspects totalement différents l'un de l'autre. Il y a la recherche de renseignements, j'allais dire, en clair, qui ne sont pas secrets. Tous les États ont besoin de savoir ce que produisent les différentes provinces. Je pense aux grands empires, notamment du Proche-Orient, que ce soit les Assyriens, les Perses après eux, ou bien l'Égypte. On a besoin de savoir ce qu'on produit et on a besoin que l'information circule.
Ben ça, c'est tout à fait actuel, l'information ouverte.
Bien entendu. Mais c'est aussi une recherche de renseignement quand même. C'est pas aussi anodin qu'on ne le pense. Et les Perses, par exemple, avaient mis au point cette fameuse route royale qui allait de Sardes à Suse pour que les informations arrive rapidement, le plus rapidement possible à la capitale. Ça, c'est aussi un des grands points de différence entre l'Antiquité, et je pense sans doute le Moyen-Âge, même l'époque moderne jusqu'à tout récemment, et l'époque que nous vivons, c'est la rapidité de la transmission. On est dans un monde lent. C'est-à-dire que de Sardes à Suse, même avec la route royale, on met 3 mois. Donc je crois que c'est la première chose. Et puis il y a deuxième chose, et c'est, je crois, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la recherche d'informations secrètes. C'est-à-dire savoir quels sont les plans de l'adversaire, quelles sont les conspirations, ce que vous avez évoqué dans votre introduction, quelles sont les conspirations, les complots intérieurs qui menacent la sécurité de l'État ou la vie du tyran. Ça peut être aussi, mais le tyran volontiers assimilera sa propre sécurité, évidemment, la sécurité de l'État.
Alors ça, c'est très actuel, franchement.
Ça, c'est très actuel et malheureusement, on en a beaucoup d'exemples. Donc, c'est surtout cet aspect-là, je crois, qui peut nous retenir, parce que là, il y a eu des trésors d'imagination déployés, aussi bien en Grèce qu'à Rome, et je crois qu'il y a des concordances, alors réellement, entre les préoccupations d'une cité grecque, de l'Empire romain ou du pouvoir impérial à Rome, par exemple, et les préoccupations des États d'aujourd'hui, qu'il s'agisse des États démocratiques, où il y a débat, on l'a bien vu en France avec la discussion de la loi sur le renseignement, ou qu'il s'agisse des États tyranniques, où en général les services de renseignement pullulent. On disait qu'en Syrie, il y en avait 17 différents.
Parce qu'il ne faut naturellement jamais qu'un tyran s'en remette à un seul système.
Bien sûr
Il en a trop peur.
Et Hafez el-Assad mettait les services de sécurité syriens en concurrence les uns avec les autres, ce qui permettait aux citoyens d'être arrêtés plusieurs fois successivement, puisque lorsqu'un service arrêtait quelqu'un et le libérait parce qu'il n'avait rien à dire ou il avait tiré tout ce qu'il... Il se faisait aussitôt arrêter par un autre en disant « Pourquoi tu as été arrêté par nos concurrents ? C'est que tu as sûrement quelque chose à cacher. »
Et vous connaissez bien cela. Je dirais malheureusement, Maurice Sartre, parce que vous avez beaucoup travaillé, fouillé en Syrie. Donc alors, voilà le plan, en somme, de notre émission. Le renseignement extérieur, du côté de la diplomatie et du côté de la guerre, et puis les préoccupations internes. Alors, commençons par l'extérieur, en nous reportant aux origines de Rome, puisque dès l'origine, naturellement, la cité, étendant son influence dans toute la péninsule, s'est préoccupée de savoir ce que les ennemis pouvaient penser, faire, projeter.
Il faut peut-être en préalable donner aussi une grande différence, ou plus exactement, une différence peut-être assumée. Bien sûr, la cité a besoin de prévoir et d'être renseignée. Et la première source de renseignement, celle qui paraît aux anciens la plus fiable, ce sont d'abord les dieux. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier que les oracles consultés
officiellement par la cité. Bien sûr, les individus ont le droit d'aller consulter qui veulent aussi pour prévoir l'avenir, savoir s'ils font bien de se marier ou pas, par exemple. Mais les cités envoient des ambassades officielles à Delphes, par exemple, pour les Grecs. Les Romains ont leur propre système aussi. Ça peut être les auspices, ça peut être les aruspices, tout ce que vous voudrez. Mais la confiance dans les dieux, c'est d'abord une recherche de renseignements. Et ils sont pas les seuls à le faire. On le voit par exemple aussi bien lorsque les Romains combattent les Germains, je crois que c'est à l'époque d'Arioviste, et ils ont appris que les devins germains ont dit aux révoltés, surtout ne combattez pas les Romains avant la nouvelle lune, sinon vous allez perdre. Il faut vous battre après la nouvelle lune. Donc les dieux donnent leur avis. Et les Romains ont su par un transfuge que les devins avaient fait cette prédiction. Donc, ils se débrouillent pour attaquer les Germains avant la nouvelle lune, et naturellement, ils l'emportent. Donc, la confiance dans les dieux, c'est quelque chose de tout à fait important et qu'il ne faut pas négliger. C'est aussi une source de renseignement.
Il y a les dieux qu'on consulte.
Donc, il y a les dieux, et puis
il y a des informations, je dirais, plus concrètes.
Alors, il y a des informations
plus immédiates, plus concrètes. Sans médiateur.
Si
divin.
Sans intermédiaire. Cela dit, on a beaucoup, beaucoup d'anecdotes qui sont notamment tirées des récits des guerres de Rome sous la République, qui montrent effectivement que se met en place, mais non pas de façon, encore une fois, systématique, centralisée, pensée, qu'il y a un nombre de pratiques importantes qui cherchent, qui visent à trouver des renseignements d'ordre militaire. Et on a quelques beaux exemples qui montrent que ça fonctionne bien. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas systématiquement ou systématisé ce type de renseignement? C'est parce que je crois que ça va à l'encontre d'une idéologie ou d'une... Oui, on peut dire d'une idéologie romaine de la force, de la puissance et de la loyauté.
Ce serait pour cela que les historiens en particulier nous donnent finalement assez peu d'informations sur ce sujet.
Ils donnent assez peu d'informations et curieusement, c'est surtout les adversaires de Rome qui sont accusés de ruse et de déloyauté.
Il y a en somme une sorte de confusion, en tout cas de rapprochement entre l'idée de renseignement et l'idée de ruse, comme si la frontière n'était pas très claire.
Exactement. Il y a l'idéologie romaine dominante, si j'ose dire. L'idéal romain, c'est de dire nous nous battons à la loyale, ce qui compte c'est la force de nos soldats, le courage des citoyens qui défendent la patrie. Et donc, dans cette affaire-là, nous n'employons pas de moyens malhonnête. C'est les adversaires qui emploient les moyens malhonnêtes. Et alors, on explique comme ça certaines défaites retentissantes de Rome. Par exemple, dans l'histoire des fourches caudines, alors là, on a le bel exemple, justement, de la ruse et de la déloyauté des adversaires.
On est à la fin du 4e siècle avant.
Les Romains marchent sur une petite ville qui s'appelle Luceria, mais ils craignent de trouver sur leur chemin les troupes des Samnites, qui sont à ce moment-là leurs adversaires principaux. Or, les Samnites ont déguisé toute une série d'espions en paysans, en pasteurs, en bergers, avec tous le même message à dire, et les Romains les croient sur parole, parce que les Romains, ce qui prouve entre nous soit dit, que les Romains interrogent aussi les habitants pour avoir des renseignements. Donc, ils sont pas si étrangers à la collecte du renseignement qu'ils le laissent croire. Et donc, tous les bergers qu'ils rencontrent, tous les paysans qui labourent leur champ, leur disent la même chose. Oh non, les Samnites, ils sont pas là. Ils sont beaucoup plus loin. Ils sont encore en Apulie. Ils sont beaucoup plus loin au sud. Non, non, vous pouvez y aller. Et du coup, ils empruntent un petit défilé qui était très dangereux parce que ça pouvait être un lieu où se faire prendre au piège, un lieu de guet-apens, en quelque sorte. Évidemment, les Samnites sont là, prennent au piège l'armée romaine qui subit une défaite humiliante.
Là, on trouve déjà le contre-renseignement qui est assez familier à nos mémoires, en particulier les procédés que les Anglais ont utilisés pour persuader les Allemands qu'ils ne débarqueraient pas en Normandie, mais beaucoup plus au nord.
Dans le Pas-de-Calais.
En laissant ces fameux cadavres flotter dans la mer avec dans leurs poches des plans qui marqueraient cette intention septentrionale.
Ça relève de la désinformation, j'allais dire presque banale. Mais là, on voit bien effectivement, le parallèle que vous établissez montre que c'est vieux comme le monde. Ce genre de tromperie, en quelque sorte, pour égarer l'adversaire et l'obliger à commettre des erreurs. Et on voit bien aussi que la désinformation, elle peut se faire, ou la recherche des informations peut se faire par n'importe qui. À l'époque dont nous parlons là, c'est-à-dire au IVe siècle, il n'y a pas de corps spécialisé à Rome dans l'espionnage. C'est vrai que les armées sont accompagnées par des gens qui marchent un peu en avant, ne serait-ce que ce qu'on appelle les frumentari, même si à cette époque-là, on les appelle peut-être pas encore comme ça.
Les frumentari, c'est-à-dire qu'ils sont en principe chargés de l'approvisionnement.
De l'approvisionnement, Mais justement, puisqu'ils marchent en quelque sorte parallèlement à l'armée, ils vont à droite, à gauche, et donc, en cherchant des ressources pour nourrir l'armée, eh ben, ils font aussi parler les gens, ils font parler les paysans. Et c'est eux qu'on peut aussi tromper. L'exemple des fourches caudines le montre bien.
Les guerres puniques, c'est-à-dire les guerres entre Rome et les Carthaginois, sont très riches en exemples d'efforts de renseignement et d'efforts de contre-renseignement. Je pense par exemple au talent d'Hamilcar, le père d'Hannibal, qui avait inventé toutes sortes de moyens pour faire passer des informations. Par exemple, il y avait ces tablettes de bois sur lesquelles on écrivait des messages secrets et qu'on recouvrait ensuite de cire fraîche.
De cire fraîche, oui. Les moyens techniques de la transmission, ils sont très sommaires. Il faut le dire tout de suite, rien à voir avec les cryptages aujourd'hui, quoique quand on entend le reportage qu'on a entendu tout à l'heure, on s'aperçoit qu'on peut écouter la conversation de n'importe qui, n'importe où, donc ce qui prouve que l'aspect secret de la communication n'est pas non plus garanti.
La cryptologie apparaît déjà de façon balbutiante à l'époque.
Oui, elle apparaît de façon balbutiante, mais avec des moyens efficaces. Alors, bien sûr, il y a ces fameuses tablettes de bois d'Hamilcar recouvertes de cire. Cela dit, la cire, ça fond et on retrouve après quand même les messages. Alors, il y a des astuces un peu plus sophistiquées. Par exemple, on nous raconte comment l'ancien tyran de Milet, Histier, qui appelle à la révolte dans sa région d'origine, c'est-à-dire l'Asie mineure, pour appeler ses compatriotes grecs à la révolte, alors que lui réside à Suse, parce que le grand roi se méfie de lui, donc il l'a déporté à Suse. Rase la tête d'un esclave, il grave son message sur le crâne de son esclave, et puis il attend que les cheveux repoussent, et il envoie l'esclave avec un seul message. L'esclave ne sait absolument pas, évidemment, ce qu'on lui a gravé sur la tête. Il a un seul message à transmettre. Il peut, évidemment, protéger, en quelque sorte, le message secret. C'est d'aller voir le tyran de Milet de cette époque-là, Aristagoras, en lui disant « rase-moi la tête ».
Donc ça exclut absolument du transfert de ces informations, les chauves. La calvitie est absolument contraire au renseignement.
Absolument. Donc certains ici pourraient faire de très très mauvais espions, je veux dire moi-même. Donc il y a ça, et puis il y a des moyens quand même de cryptage. Certains sont peut-être douteux et ont peut-être été inventés après coup. Par exemple, on nous dit que César transmettait des messages en latin, mais écrit en grec pour que ça échappe aux Gaulois. Honnêtement, je n'y crois pas beaucoup pour une raison simple, c'est que les Gaulois n'avaient pas de peine à trouver des gens qui savaient lire le grec, y compris du latin écrit avec des caractères grecs.
Toute l'historiographie récente, d'ailleurs, nous montre que les Gaulois, nos ancêtres, étaient beaucoup moins barbares que parfois on ne l'a dit.
Bien entendu, ça c'est une histoire de Romains. Et puis, il y a les moyens de cryptage qui remontent probablement au IVe siècle de notre ère, ce que les Grecs appellent la citale ou la skitale. Alors la skitale, c'est un moyen de, non pas de codage, c'est un moyen pour rendre illisible un message.
C'est l'affaire des bâtons, non ?
C'est l'histoire d'un bâton. Alors c'est un bâton, ça peut être soit un bâton rond, soit un bâton multiface, si j'ose dire. Une baguette, par exemple, avec une taille hexagonale ou octogonale. Peu importe, ce qui facilite la lecture. Bâton sur lequel on enroule une lanière et on écrit le message sur la lanière ligne par ligne en tournant le bâton. Et on ne peut lire donc le message, on donne la lanière au messager sans le bâton et celui à qui il porte le message doit avoir évidemment un bâton rigoureusement identique pour que les lettres se remettent à nouveau les unes en face des autres. Voilà un moyen de cryptage assez sommaire, parce que tous les spécialistes en cryptologie vous expliqueront que c'est très facile en fait à décrypter. Il n'y a pas un nombre infini de possibilités d'ordonner les lettres. Il y a d'autres moyens de cryptage encore, par exemple d'envoyer un message très banal, comme un texte littéraire, et puis de pointer de façon imperceptible les lettres au fur et à mesure. Seul le destinataire sait quel est le cryptage, quel est le signe minuscule qui va lui désigner les lettres qu'il faut ensuite lire les unes après les autres et qui vont donner un message, évidemment, complètement différent et secret, destiné à lui seul. Il y avait une autre ruse, c'était d'envoyer des messages sur des lamelles de plomb ou de métal, quel que soit, qu'on travaillait en forme de boucle d'oreille. Et alors, on mettait ça aux oreilles des dames.
C'est pour, il fallait être une agent féminine, là.
Alors, oui, ce qui prouve qu'il y a des agents féminines aussi, donc, comme aujourd'hui. Et
Matahari, etc.
Voilà, je crois que c'est Énée le tacticien qui en parle au 4e siècle, raconte que...
Avant Jésus-Christ,
on pouvait utiliser des lamelles de plomb enroulées et utilisées comme boucles d'oreilles par des dames. Mais on pouvait aussi, par exemple, cacher un message ou une image pieuse.
Puisque nous avons parlé des Carthaginois, Maurice Sartre, il faut, comme toujours dans les émissions qui nous réunissent, faire appel au moins une fois à un péplum. En voici un. Il s'agit du film Hannibal de Carlo Ludovico Bargaglia et d'Edgar Ulmer, un film qui remonte à 1959. Le Sénat romain se préoccupe de l'arrivée d'Hannibal par le nord avec ses éléphants, fameuse histoire. Faut-il être optimiste ou pessimiste ? Et fort pour se renseigner au milieu de cet extrait, on va voir arriver un agent qui vient dire les dernières informations.
Laissez parler Minucius. Minucius, continue.
Je vous le répète, c'est seulement un fou ou un imbécile qui peut tenter de traverser les Alpes avec des milliers de soldats et un troupeau d'éléphants. Je vous le dis. Au lieu de nous alarmer, nous devons nous réjouir et rendre grâce au ciel. Bien avant que les légions romaines aient à affronter Hannibal, la neige et le froid auront remporté la victoire sur ce présomptueux barbare. Et les Carthaginois qui auront réussi à s'échapper vivants de ce piège seront tellement épuisés de fatigue que nos légions de Gaules cisalpines auront tout fait de les balayer.
Si je me trompe, reprends-moi, Minucius. Mais il me semble trop certain que les légions des frontières alpines sont déjà assez occupées à faire face aux Gaulois. Qui les appuiera pour affronter Hannibal ?
L'armée que commande Scipion doit aller les rejoindre.
Attends, j'en doute.
Je crois discerner que Quintus Fabius n'a pas pleine confiance dans la force de Rome.
En peu d'années, Hannibal a conquis toute l'Espagne. Non pas par la seule force des armes, mais par une subtile diplomatie. Jamais un homme de cette trempe ne se laissera prendre au piège des Alpes.
Silence ! Hannibal sera très heureux lorsqu'il saura qu'il a ici un si fervent admirateur.
Écoutez ! Écoutez !
Silence !
Hannibal est en train de passer les Alpes.
Nos garnisons sont partout en fuite.
Personne ne s'oppose à lui ?
Non, sauf Rutanius.
C'est pourtant un ennemi résolu de Rome.
Rutanius connaît bien ces montagnes, il retardera la marche du Carthaginois.
Alors Maurice Sartre, c'est Fabius qui avait raison ?
Bien entendu. Cet extrait est intéressant. On va pas prendre un péplum comme une source historique de première grandeur, hein. Il s'agit pas de ça. Mais c'est intéressant parce que ça traduit bien un certain état d'esprit et certaines réalités. D'abord, une première réalité, c'est que Hannibal est en effet un champion de l'espionnage, de l'information et de la désinformation.
Comme son père Hamilcar.
Comme son père Hamilcar, et il avance constamment son armée, au devant de son armée, j'allais dire des ambassadeurs, mais ils sont aussi autant ambassadeurs qu'espions en réalité. En fait, il avance en essayant de connaître l'état d'esprit des peuples qu'il doit traverser et aller gagner à sa cause en montrant combien ils doivent aux Romains tel méfait particulier, tel pillage, etc. Donc il avance beaucoup plus facilement que ne l'imaginent les Romains parce que il a cet art de l'information. Il marche en terrain sûr au fur et à mesure qu'il avance. D'autre part, c'est intéressant de voir les Romains s'opposer entre eux. Et on voit s'opposer clairement deux attitudes. L'attitude très traditionnelle des Romains qui ne compte que sur la force et de toute façon, nous n'agissons pas par traîtrise, par ruse, par désinformation, etc. Nous attendons le Hannibal de pied ferme. Moyennant quoi, ils savent pas du tout où il faut l'attendre parce qu'ils ne savent absolument pas où il va passer dans les Alpes. Et Hannibal n'est jamais là où il croit qu'il est. Ils font confiance en quelque sorte la force pure, ce que dit à un moment l'un des intervenants. De toute façon, les Alpes, il ne pourra pas les franchir.
Et puis l'autre camp.
Et puis il y a ceux qui pensent que ben il est quand même arrivé jusque là, donc ça prouve qu'il est fort. Vaut mieux s'attendre au pire. Ça attire l'attention sur une chose, c'est que recueillir des informations, c'est bien, c'est important, mais encore faut-il savoir les traiter. Savoir quelle confiance on peut leur accorder, et puis savoir tirer les conséquences politique ou militaire de ces renseignements.
C'est là qu'on retrouve Fabius le temporisateur, Fabius Conctator, qui va ensuite...
Et c'est lui qui a raison, bien entendu, dans cette affaire.
Qui va diriger ensuite les armées romaines et progressivement, de défaite en défaite, fatiguer Hannibal et ses troupes.
Oui, il les a tirés jusqu'en Italie du Sud et puis
Caput
après...
Caput dans ses délices.
Voilà. Et ensuite, il y aura retournement... comme on sait. Mais là, on n'est plus seulement dans l'histoire du renseignement, c'est l'histoire de la stratégie militaire, c'est autre chose.
Mais si on avance vers la période impériale, vers l'Empire, les scrupules des vieux Romains paraissent se dissiper assez vite.
Oui, assez vite. Et en fait, honnêtement, c'est une attitude mentale qu'on affiche, c'est pas une réalité, car Rome a toujours cherché des renseignements et a déjoué les plans de l'adversaire. Simplement, à l'époque impériale, se mettent en place des services plus réguliers. Et notamment, toutes les légions possèdent désormais un corps, ça se fait progressivement, je vais pas rentrer ici dans les détails, peu importe, mais un corps de ce qu'on appelle les exploratores, c'est-à-dire des espions, des surveillants, en quelque sorte, des gens qui explorent, le terme dit bien ce que ça veut dire, qui explorent les lieux avant que l'armée n'avance. Donc, souvent, les légions avancent dans des régions où les Romains ne sont peu allés. Et donc, il faut découvrir le terrain. Donc, il vaut mieux le découvrir, même si c'est avec 3 jours d'avance, savoir que là, il y a des marécages. Donc, on a besoin d'avancer en terrain sûr.
À une époque où la cartographie est souvent médiocre.
Et il n'y a pas surtout de cartographie très local. On a des vues globales du monde, mais c'est pas avec une carte générale du monde habité que vous savez à quel endroit vous traversez le Frate ou à quel endroit vous pouvez traverser le Rhin.
Pas de satellite.
Voilà. Et on n'a pas une idée de la géographie précise des formes, en quelque sorte, du relief. Là, donc, sous l'Empire, on voit... Alors, tous les corps d'armée vont avoir désormais une unité d'explorateurs, les exploratores, à cheval. Et puis, il y a aussi ceux qu'on appelle les speculatores. Et alors, eux, ce sont vraiment des espions. D'abord, ils sont détachés de l'armée, mais ils sont, j'allais dire, en civil. Ils peuvent recouvrir n'importe quelle forme. On les déguise en marchands, en bergers, en tout ce que vous voudrez. Et eux se livrent à l'espionnage. On les envoie, y compris dans les lignes ennemies, si besoin est, pour savoir ce qui se dit chez l'adversaire.
Un métier toujours dangereux, parce que les auteurs nous racontent le cas de beaucoup d'entre eux qui ont été débusqués et qu'on a exécuté, généralement, en leur coupant les mains.
Oui, et ils sont, en général, lorsqu'ils sont pris, ils sont immédiatement exécutés, jugés comme des gens à la fois déloyaux et extrêmement dangereux.
Métier à risque. Alors avant de considérer la manière dont tout ça se développe à l'époque de l'Empire, je vais vous faire écouter, ça c'est plutôt une concordance dans l'espace qu'une concordance des temps, un extrait de l'auteur fameux chinois Sun Tzu qui, au VIe siècle avant Jésus-Christ, parle de l'art de la guerre. C'est une lecture sur France Culture le 22 avril 1998.
Après avoir enfanté quelques projets, si vous apprenez que votre secret a transpiré, faites mourir sans rémission tant ceux qui l'auront divulgué que ceux à la connaissance desquels il sera parvenu. Ceux-ci ne sont point coupables encore à la vérité, mais ils pourraient le devenir. Leur mort sauvera la vie à quelques milliers d'hommes et assurera la fidélité d'un plus grand nombre encore. Punissez sévèrement, récompensez avec largesse. Multipliez les espions. Ayez-en partout, dans le propre palais du prince ennemi, dans l'hôtel de ses ministres, sous les tentes de ses généraux. Ayez une liste des principaux officiers qui sont à son service. Sachez leur nom, leur surnom, le nombre de leurs enfants, de leurs parents, de leurs amis, de leurs domestiques. Que rien ne se passe chez eux que vous n'en soyez instruits. Vous aurez vos espions partout. Vous devez supposer que l'ennemi aura aussi les siens. Si vous venez à les découvrir, gardez-vous bien de les faire mettre à mort. Leurs jours doivent vous être infiniment précieux. Les espions des ennemis vous serviront efficacement si vous mesurez tellement vos démarches, vos paroles et toutes vos actions qu'ils ne puissent jamais donner que de faux avis à ceux qui les ont envoyés. Une armée sans agent secret est un homme sans yeux ni oreilles.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Alors Maurice Sartre, c'est cet auteur chinois fameux, on aurait pu l'imaginer grec ou romain, avec cette idée de l'utilisation des espions qu'on a débusqués comme tels et qui ne savent pas qu'on les a débusqués pour s'en servir. Ce n'est pas exactement le phénomène du retournement des agents qui est encore un autre système.
C'est autre chose, mais je crois qu'un texte comme celui-ci, effectivement, aurait pu être écrit par n'importe quel analyste de n'importe quelle époque et de n'importe quel lieu. Ce qui m'a frappé, c'est sa toute dernière phrase où il évoque les oreilles et les yeux. Et vous savez que c'est précisément le nom qu'on donnait aux espions du roi de Perse et à ses agents répartis dans l'Empire, les yeux et les oreilles du roi. Et donc on retrouve là exactement la même expression. Alors c'est banal, puisque de toute façon c'est avec les yeux et les oreilles qu'on se renseigne, c'est évident. Je crois que c'est effectivement un texte qui pourrait être de n'importe quelle époque, et je pense que les auteurs romains ou grecs auraient pu largement y souscrire. On voit par exemple dans les guerres civiles romaines que on multiplie les espions. Par exemple, César envoie des espions déguisés en marchands dans le camp de Pompée pour connaître l'état d'esprit des troupes de Pompée et voir si elles sont prêtes à se rallier à lui en cas de défaite de Pompée, par exemple. Là encore, on est très loin de l'idéologie traditionnelle, de cette sorte de pureté d'intention, n'est-ce pas ? On compte que sur notre force et notre courage. En réalité, là aussi, on vit dans un monde truffé d'informateurs, de transfuges, de déserteurs, avec évidemment ce qu'on a évoqué déjà, le risque de l'exécution immédiate pour ceux qui se font prendre. Et là, on en a des exemples. Lorsque Pompée attrape des espions pendant la guerre d'Espagne, ils sont immédiatement exécutés, les esclaves sont crucifiés et ceux qui sont des hommes libres sont immédiatement décapités. Donc c'est vraiment un métier à risque, mais c'est un métier universel.
Alors nous en venons par là, Maurice Sartre, nous en venons à un deuxième volet de notre conversation de ce matin, c'est-à-dire non plus le renseignement militaire dans les guerres extérieures, mais la surveillance intérieure. Et il y a un cas qui a beaucoup frappé tous les contemporains et qui a continué d'être considéré pendant toute l'Antiquité, c'est le cas de Sparte.
Alors Sparte, évidemment, passe pour être le modèle de cité où chacun est sous surveillance, mais je dirais que c'est un peu le cas de toutes les cités grecques. On est dans des états qui sont minuscules, même les très grands comme Sparte ou Athènes sont quand même des milieux relativement limités.
Mais Sparte, c'est au maximum une situation où on se dit qu'il devait être assez difficile de vivre en fait. En tout cas,
peut-être difficile de vivre, en effet, pour les Spartiates, mais surtout difficile de vivre aussi pour tous ceux qui n'avaient pas la plénitude des droits civiques et ils étaient les plus nombreux et de très loin. Sans parler, évidemment, des esclaves que sont les zilotes.
On vit vraiment derrière une vitre sous l'œil de la communauté. Puis il y a cette fonction spécifique qui est celle des fameux éphores.
Alors les éphores sont les cinq magistrats majeurs de Sparte qui, semble-t-il, surveillent tout. On en a un bon exemple et on peut, si vous voulez, l'analyser d'un petit peu plus près.
Je vous en prie.
Parce que ça nous permettra finalement de voir comment les choses se lient les unes avec les autres. C'est une conspiration qui a lieu à Sparte en 397 avant notre ère, qu'on appelle la conspiration de Cynadon. Ça nous est raconté avec pas mal de détails par Xénophon dans les Héléniques. Alors que se passe-t-il ? Après avoir rendu, offert des sacrifices, un devin dit aux autorités que les dieux envoient des signaux pour dire qu'il y a une conspiration redoutable en préparation. Alors, comme on ne croit pas toujours les dieux sur parole, on offre une deuxième fois des sacrifices, puis une troisième fois, et à chaque fois, les signaux sont les mêmes, et la situation même empire. Chaque fois, le signal indique que la conspiration est encore plus dangereuse. Et comme par hasard, arrive un informateur, enfin, et Xénophon, qui est très favorable aux Spartiates, faut pas l'oublier, nous dit que, comme par hasard, à ce moment-là, quelqu'un vint faire connaître aux efforts une conspiration et le nom du responsable de l'affaire, Cynadon. Les efforts se gardent bien d'arrêter Cynadon sur le champ. Et ils envoient des espions pour voir ce qu'il en est exactement. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer quelqu'un dans l'entourage de Cynadon pour qu'il participe à la conspiration, pour pouvoir rapporter en quelque sorte l'étendue du complot aux efforts. De fait, Cynadon le fait rentrer dans la conspiration et lui explique que le but de la conspiration, c'est de renverser le régime spartiate en disant de toute façon, dans cette cité, regarde bien tous ceux que tu vois là au marché, il l'emmène au marché, en ville, et il lui dit, mais regarde, la plupart des gens sont hostiles aux efforts et aux citoyens privilégiés, ce qu'on appelle les homoyoi, les semblables, les pères, les égaux, enfin, comme vous traduirez comme vous voudrez, qui sont les seuls citoyens à avoir tous les droits. Mais tous les autres ont des statuts inférieurs. Les ilotes, n'en parlons pas, les périèques qui sont les paysans qui peuplent la campagne, mais il y a de tas d'autres petits groupes intermédiaires qui sont eux aussi, cela dit, très remontés, paraît-il, contre Sparte.
Alors que fait l'agent qui s'est infiltré?
Et alors l'agent infiltré vient évidemment rapporter tout cela aux efforts. Et les efforts, devant l'étendue de la conspiration, ne veulent pas prendre le risque d'arrêter Cynadon à Sparte, ayant peur que les conspirateurs qu'il a rassemblés ne se révoltent, ne sortent les armes et ne mettent à bas le régime. Alors on va charger Cynadon d'une mission secrète. C'est-à-dire que le conspirateur est chargé d'aller arrêter des ilotes soi-disant conspirateurs.
Tout se complique.
Ça se complique un petit peu, mais enfin bon, l'affaire, je crois, est assez claire. Et on va l'envoyer dans une petite ville qui s'appelle Olon, qui est assez loin de Sparte. On veut essayer de l'écarter de la masse des conspirateurs pour l'arrêter de façon plus discrète. Et on l'envoie avec ce qu'on appelle des hippagrètes, qui sont en fait la police secrète des efforts. Il part avec des acolytes, mais c'est ses acolytes qui sont chargés de l'arrêter.
Son avenir m'inquiète.
Et il part donc à Olon avec une skitale sur laquelle sont gravés et sont écrits les noms des ilotes que l'on soupçonne de conspiration, mais en réalité, la mission n'a qu'un seul but, c'est de l'arrêter lui, que les hippagrètes l'arrêtent lui au cours de cette mission et le ramènent sous bonne garde après que on ait étouffé en quelque sorte la conspiration. C'est très intéressant parce que on voit d'abord comment se noue un complot intérieur, on voit les tensions à l'intérieur d'une cité, on voit aussi l'habileté des efforts à déjouer le complot, mais sans semer la perturbation au cœur même de la cité. On va faire ça discrètement. Évidemment, ça se termine mal pour Cynadon, qui probablement est torturé, et on a la liste des complices et on arrête. Les complices n'étaient pas si nombreux que ça, mais on arrête un certain nombre de gens, dont, nous précise Xénophon, le devin Thaïsaménos, ainsi que les plus importants parmi les autres membres de la conjuration. Cynadon fut ramené convaincu de crime, il avoua tout et nomma ses complices. Enfin, les efforts lui ayant demandé quel était son but dans cette action, c'était, répondit-il, pour n'être à Lacédémone l'inférieur de personne. Aussitôt ses deux mains et sa nuque sont prises dans un carcan, il est fouetté et subit le supplice de l'aiguillon. Lui et ses complices sont ainsi promenés autour de la ville. Tel fut donc leur châtiment.
Je voudrais que nous en venions à ce qu'on peut appeler la paranoïa des empereurs, c'est-à-dire l'obsession des complots potentiels, possibles, notamment du côté de l'armée. Après tout, il y a eu au moins 12 ou 15, peut-être davantage. Il y a eu beaucoup d'empereurs qui ont été assassinés.
Beaucoup d'empereurs ont été assassinés. Alors, pas forcément dans le cadre d'un complot à la cour, ou d'un complot qu'on pourrait appeler politique, où beaucoup ont été tout simplement assassinés par leurs troupes après un échec militaire, par exemple. C'est vrai notamment dans la grande, ce qu'on appelle la crise de l'Empire au IIIe siècle. Contrairement à l'image qu'on peut avoir, la vie à la cour de Rome, à la cour impériale, à partir du règne d'Auguste, est extrêmement dangereuse, tendue, et on vit dans une atmosphère de complot et d'espionnage permanent. Alors,
Corneille en rencontre dans Sina.
Alors, bien entendu, mais...
Rentre en toi-même, Octave, et cesse de te plaindre. Quoi, tu veux qu'on t'épargne, il n'a rien épargné. Songe au fleuve de sang que ton bras a versé, on est là exactement.
Exactement, mais Sina, finalement, donne un peu une fausse image, si j'ose dire. Parce que, si j'ai bonne mémoire, la pièce s'appelle Sina ou la Clémence d'Auguste. Et donc, la Clémence d'Auguste, ça laisse supposer que, dans le fond, il craignait pas trop ses complots et que, en réalité, ça s'est en général très très mal passé pour les comploteurs qui ont été éliminés. Et on a, par exemple, un petit passage de Suétone qui attire, alors même si Suétone est parfois un peu mauvaise langue, et il a tendance à en rajouter et à noircir le tableau, mais là, c'est pas le cas, je crois. Dans la vie consacrée à Auguste, il indique qu'il y eut un grand nombre de conjurations découvertes par des indicateurs avant qu'elles n'aient pu prendre la force. Ce qui veut dire qu'Auguste est entouré d'espions, où il a disséminé en tout cas des espions privés, ceux qu'on appelle justement les speculatores aussi, ou les delatores, donc d'où vient notre mot délateur, mais qui sont des espions tout à fait secrets et privés. Et ces affaires furent étouffées à des moments divers, celle de Lépide le Jeune, puis celle de Varro Murena et Fannius Caepio, après celle-là, celle de Marcus Egnatius, puis de Plautius Rufus et de Lucius Paulus, le mari de sa petite-fille. Donc certains de ces complots sont aussi des complots familiaux. Donc on doit se méfier de tout le monde, y compris de sa propre famille. Et par-dessus le marché, celle de Lucius Audacius, accusé de falsification d'écriture, un vieillard de surcroît malade, puis celle d'Asinius et Picadius, un métis de sang partinia, c'est-à-dire qu'il est moitié romain, moitié illyrien, finalement, celle de Télef, esclave, huissier d'une femme.
Non, je t'ai plus.
Vous voyez que là, il signe même pas Sina dans cette affaire-là. Mais donc,
tous ces comploteurs sont morts probablement de façon aussi cruelle que Stauffenberg.
Probablement.
Tué par Hitler, accroché à un croc de boucher.
La plupart de ces comploteurs, effectivement, finissent. Alors, quand il s'agit de membres de la famille impériale, ils ne sont pas toujours exécutés. Ils sont parfois envoyés tout simplement en exil sur une île déserte ou quasiment déserte, proche du Latium. Mais on voit qu'on vit dans une atmosphère de méfiance généralisée. Et alors, ça va beaucoup plus loin avec Tibère encore. Tibère, lui, envoie même aussi des provocateurs. Il y a un très célèbre passage d'Épictète qui explique comment on envoie des... Alors, pas forcément à l'époque de Tibère précisément, là, en disant que les provocateurs impériaux, en quelque sorte, essayent de débusquer les opposants. Et alors, c'est comme ça, dit-il, je crois que j'avais noté le passage à un endroit, un soldat déguisé vient s'asseoir à côté de vous, donc un espion en réalité, il s'assoit à côté de vous, il commence à tenir des propos défavorables à l'empereur, mis en confiance, vous emboîtez le pas en disant vous aussi tout le mal que vous pensez de l'empereur.
On t'enchaîne et on t'emmène, dit Épictète.
Voilà, on t'enchaîne et on t'emmène, et c'est comme ça. Donc on voit que la manie de l'espionnage va jusqu'à la provocation. Alors, il y a aussi tout ce qui relève des crimes de lèse-majesté. Alors là, on tombe dans le ridicule. On va arrêter un tel parce que il est allé aux latrines publiques avec, dans sa poche, une pièce où il y avait le portrait de l'empereur.
Il y a aussi le cas de celui qui bat un de ses esclaves qui avait dans la main...
Une pièce de monnaie avec le portrait de Tibère.
C'était très mal de faire ça.
Donc là, on tombe... Il y a des foules d'anecdotes de cette manière-là. On peut dire une sorte de manie du renseignement.
Est-ce qu'on ne retrouvait pas ça de la même façon chez dans la Roumanie de Ceausescu, dans plusieurs démocraties populaires et probablement en Syrie aujourd'hui?
On retrouve exactement la même chose absolument partout. Puisque vous évoquez la Syrie, même si ça fait une petite parenthèse, mais après tout, concordance des temps, concordance des lieux aussi, je pense que cette omniprésence présence de l'espionnage, et en Syrie c'était manifeste, et ça je l'ai vécu moi-même, je veux dire comment on peut être suivi pendant 48 heures par des gens qui ne vous lâchent pas d'une semelle.
Lors de votre travail scientifique récent dans ce pays.
Ça m'est arrivé. Ou même quelqu'un que j'allais voir à des résorts, et qui m'appelle au téléphone, alors que j'étais encore en voiture, pour me dire « l'hôtel vient de m'annoncer que vous étiez sur le point d'arriver ». J'étais en train de passer devant le panneau de l'entrée des résorts, par exemple. Mais il y a une autre préoccupation dans le régime syrien, c'est tout simplement de tirer profit financièrement de la surveillance. C'est-à-dire que toutes les activités étaient surveillées et c'était l'occasion de ramasser des bakchiches, pour parler couramment, pour toute activité. Et là aussi, je l'ai éprouvé, même si j'ai refusé, mais je l'ai éprouvé, par exemple, si vous voulez faire un barbecue sur votre terrasse, on va vous objecter que il faut l'autorisation des services secrets parce que pas loin de chez vous, il y a une ambassade, vous avez vu sur tel truc. Et donc, mais enfin, moyennement, une certaine somme d'argent, vous pourrez peut-être bien faire votre barbecue.
Pour ce qui est de cette paranoïa dont nous parlons des empereurs, il faut dire qu'elle s'enracine dans l'événement fondateur qui est la mort de Jules César, son assassinat. Je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre un extrait fameux des vies parallèles de Plutarque dans l'ancienne traduction d'Amyot. C'est une lecture de Paul-Émile Deybert sur France Culture le 19 juin 1967. Cet événement a été visiblement présent dans l'esprit de tous les empereurs qui ont succédé à Auguste.
Ainsi comme César entra, tout le Sénat se leva au devant de lui par odeur. Et à donc les uns des conjurés se mirent derrière sa litière, les autres lui allèrent à l'encontre de front, comme voulant intercéder pour Metellus Saint-Bert, qui requérait le rappel de son frère étant en exil. Et le suivirent ainsi, en le priant toujours, jusqu'à ce qu'il se fût assis en son siège. Et comme ils rejetaient leurs prières, et se courroussaient à eux les uns après les autres, à cause que d'autant plus qu'ils les refusaient, d'autant plus ils le pressaient et l'importunaient plus violemment, à la fin Metellus, lui prenant la robe à deux mains, la lui enleva dans l'entour du cou, qui était le signe que les conjurés avaient pris entre eux pour mettre la main à l'exécution. Et donc Casca lui donna par derrière un coup d'épée au long du cou. Mais le coup ne fut pas grand ni mortel, parce que s'étant troublé, comme il est vraisemblable, à l'entrée d'une si hardie et si périlleuse entreprise, il n'eut pas la force ni l'assurance de la scéner au vif. César, se retournant aussitôt vers lui, empoigna son épée, qu'il tint bien ferme, et tous deux se prirent ensemble à crier, le blessé en latin, « Ô traître, méchant Casca, que fais-tu ?» et celui qui l'avait frappé en grec, « Mon frère, aide-moi. » À ce commencement de l'émeute, les assistants qui ne savaient rien de la conspiration furent si étonnés et si épris d'horreur de voir ce qu'ils voyaient, qu'ils ne surent que prendre parti ni de s'enfuir, ni de le secourir, non pas seulement d'ouvrir la bouche pour crier. Mais ceux qui avaient conjuré sa mort l'environnèrent de tous côtés, les épées nues en leurs mains, de sorte que, de quelque part qu'il se tournât, il trouvait toujours quelques-uns qui le frappaient et qui lui présentaient les épées luisantes aux yeux et au visage. Et lui se démenait entre leurs mains, ni plus ni moins que la bête sauvage acculée entre les veneurs. Car il était dit entre eux que chacun lui donnerait un coup et participerait au meurtre. À l'occasion de quoi, Brutus même lui en donna un à l'endroit des parties naturelles. Et il y en a qui disent qu'il se défendit toujours et résista aux autres en traînant son corps çà et là et en criant à pleine voix, jusqu'à ce qu'il aperçût Brutus, l'épée traître en la main. Car alors il tira sa robe à l'entour de sa tête, sans plus faire de résistance, et fut poussé, ou par cas d'aventure, ou par exprès conseil des conjurés, jusque contre la base sur laquelle était posée l'image de Pompée qui en fut tout ensanglantée. De manière qu'il semblait proprement qu'elle présida à la vengeance et punition de l'ennemi de Pompée, étant renversé par terre à ses pieds, et tirant au trait de la mort pour le grand nombre de plaies qu'il avait. Car on dit qu'il y eut 23 coups d'épée, et y eut plusieurs des conjurés qui, en tirant tant de coups sur un seul corps, s'entreblessèrent eux-mêmes.
C'était Paul-Émile Deybert, sociétaire de la Comédie-Française. Il savait lire. Ce qui frappe à l'écoute de ce texte, c'est d'abord que Jules César a négligé des informations qu'il avait, Maurice Sarr, n'est-ce pas, qui lui signifiait qu'il courait un grand risque.
On lui avait dit qu'il y avait complot, on lui avait même fourni la liste au moins partielle des comploteurs. Il n'en a pas tenu compte.
Pourquoi?
Alors,
pourquoi? On ne sait pas.
Pour des raisons, je ne sais pas pourquoi il n'en a pas tenu compte. Est-ce que il a pensé qu'il pouvait s'en protéger? On est là au cœur même du problème de l'espionnage. C'est qu'encore une fois, recueillir des renseignements est une chose évidemment indispensable.
Les traiter, c'est une
Mais ensuite,
chose.
Il faut traiter l'information. Les États antiques, souvent, n'ont pas le moyen de traiter cette information. D'abord, parce que il n'y a pas de professionnels, si j'ose dire, du traitement de l'information. Lorsqu'on reçoit, par exemple, les ambassadeurs, qui ont souvent des messages secrets, on les reçoit publiquement. Alors, dans certains cas, ça arrive à Athènes, par exemple, qu'on les reçoive en plus petits comités. Mais les gens qui sont là, ils sont quand même 20, 30, 50. Ce qui coûte les rapports des ambassadeurs, y compris sur les mouvements de l'ennemi. Donc, le secret, qui est quand même quelque chose de capital dans tout ce qui est espionnage, le secret, il est majeur. Je pense, sans être spécialiste du renseignement, je pense que n'importe quel spécialiste nous dirait cela aujourd'hui. Mais donc, ça, les États antiques ne sont pas capables pratiquement de maintenir ce secret et donc souvent d'exploiter les renseignements.
Et puis, il y a une autre donnée, c'est que ces délatores, les délateurs ont une grande importance, d'autant plus grande qu'il n'existe pas nos procureurs généraux, ceux qui sont chargés de l'accusation au nom de l'État.
On n'a pas de professionnels. Les États antiques, que ça soit à Rome ou que ce soit dans les États grecs, n'ont pas de structure judiciaire qui puisse mener une action pour la protection de l'État. Il n'y a pas de procureur chargé du terrorisme ou de tout ce que... Donc, la cité, les lois, sont sous la protection directe des citoyens. Ils peuvent être évidemment de bonne foi, donc on compte beaucoup sur la dénonciation. À Athènes, par exemple, la démocratie, elle est placée sous la protection des citoyens. Ce qui n'a pas empêché deux coups d'État successifs, en 411 et en 404, d'avoir lieu, sans que personne ne puisse en protéger la cité. En même temps, on est extrêmement méfiant devant les dénonciateurs, parce que où passe la limite entre le dénonciateur de bonne foi et puis ce que les Grecs appelaient les sycophantes ou ce que nous on appelle les délateurs. Mais chez nous, délateur, ça a aussi un aspect très négatif aujourd'hui. Or, en même temps, un délateur peut donner des informations qui sont justes. Dans l'Antiquité, on voit que c'est une sorte d'obsession, que ça soit dans le renseignement militaire ou dans le renseignement intérieur, c'est d'avoir affaire à des gens qui vous trompent sciemment. Par exemple, les prisonniers de guerre. Les transfuges du camp adverse, ça peut être aussi bien dans le cadre d'une guerre civile. Est-ce qu'ils sont de bonne foi ou est-ce qu'ils sont envoyés comme agents doubles par l'adversaire? C'est une question qui revient constamment.
Donc on connaît tout à fait dans notre époque contemporaine, évidemment.
Simplement, on a aujourd'hui, je pense, enfin j'espère, des agents qui sont des professionnels, qui sont capables de deviner... ça marche pas toujours. On en a eu combien d'exemples dans ces 50 dernières années, mais qui essayent de deviner si un agent est un agent fiable ou si c'est simplement un agent double infiltré.
Toute l'œuvre de John le Carré est entièrement parcourue par ce type d'interrogation.
Absolument. Eh bien, c'est une obsession qu'avaient déjà les Romains, qu'avaient déjà les Grecs. Est-ce que il s'agit vraiment d'un informateur ou est-ce que c'est quelqu'un qui nous trompe?
Nous allons clore notre dialogue, Maurice Sarr, sur cette interrogation qui est d'hier, d'aujourd'hui et assurément de demain. Je voudrais rendre hommage à un livre important dû à Rosemary Sheldon qui a été traduit aux belles lettres. C'était écrit en américain, en anglais. Renseignements et espionnage dans la Rome antique. Rosemary Sheldon est un professeur à l'Institut militaire de Virginie et elle est, c'est une femme, Rosemary, elle est colonel de l'armée américaine.
Absolument.
Ce livre est utile?
C'est un livre très utile. On peut, comme tous les livres, il a ses petits défauts, mais c'est un livre qui est bourré de renseignements et puis surtout qui est l'œuvre d'un professionnel, justement. Et donc, elle voit bien quelles sont les failles du système et là où les Romains, puisqu'elle s'intéresse, elle, qu'aux Romains, ont parfois peiné à trouver une solution.
Renseignement et espionnage dans la Rome antique, c'est une édition de 2009. Et puis, je rends hommage à plusieurs de vos ouvrages. Histoire grecque, paru au Seuil en 2006, toute une série de tableaux teints qui jonge toute l'histoire de la Grèce antique et qui restitue, conjuguer toute une atmosphère, une ambiance, sont des nouvelles au sens littéraire du terme. Je renvoie spécialement nos auditeurs à cet ouvrage. Vous avez publié également un livre qui s'appelle « L'historien et ses territoires », c'est un choix d'articles paru chez Ausonius en 2014, il faut toujours rendre hommage aux éditeurs vaillants et modestes. Et puis enfin, naturellement, les deux livres qui concernent Palmyre, celui que vous avez publié avec Annie Sartre, « Palmyre, la cité des caravanes », c'est un petit livre de la collection Découverte chez Gallimard en 2008, et toujours avec la même complicité d'Annie Sartre, « Zénobie, de Palmyre à Rome », paru chez Perrin en 2014, une biographie de Zénobie qui a été très, très remarquée. Et naturellement, avec les événements récents et les menaces qui pèsent sur Palmyre, vous avez été beaucoup consulté, on a fait beaucoup appel à votre compétence. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Aujourd'hui, disons que la menace existe, c'est-à-dire que Palmyre est otage. On peut dire que les ruines de Palmyre sont otages, mais vous me direz que les ruines, c'est pas grave, parce que c'est toute la population syrienne qui est otage de tyrannies opposées, celle de Bachar el-Assad d'un côté, celle de Daesh de l'autre. Palmyre est clairement un enjeu, un patrimoine pris en otage des deux côtés. Alors, pour l'instant, Daesh n'a rien détruit de majeur. Ils ont détruit quand même deux mausolées musulmans au nom de leur idéologie, de leur phobie, de l'idolâtrie, puisque tout mausolée, on en a beaucoup moins parlé que des deux mausolées, mais ils ont également fait détruire tous les monuments funéraires des cimetières actuels de Palmyre. Parce qu'ils estiment que sur les tombes musulmanes, selon leur idéologie à eux, il ne doit y avoir qu'une petite pierre sans nom, sans aucun décor, rien du tout. La pierre étant là juste pour signaler qu'il y a déjà quelqu'un d'enterré là et qu'on ne creuse pas deux fois au même endroit. C'est une prise d'otage parce qu'en réalité le site est miné, c'est du moins ce que l'on a dit. Bon, on attend des preuves, mais est-ce qu'on est tellement pressé d'avoir des preuves, j'en suis pas sûr. Il s'agit en fait de se protéger des bombardements aussi bien des Alliés que de Bachar el-Assad.
Il reste donc un espoir que ces ruines, les ruines de Palmyre antique, demeurent en place.
Malheureusement, pour l'instant, Palmyre, heureusement, reste encore en place, mais malheureusement, les destructions sont majeures et elles sont pour l'instant le fait essentiellement de Bachar el-Assad. Le musée de mosaïque le plus beau de Syrie, celui de Maratennoman, a été détruit par des envois de barils de TNT, et pas par erreur, contrairement à ce que veulent dire certains, mais sciemment pour punir les gens qui se sont rebellés contre lui. On a là une prise d'otage du patrimoine à des fins différentes, c'est-à-dire Daesh, c'est pour des raisons idéologiques, pour Bachar, c'est un comportement mafieux de quelqu'un qui veut punir ceux qui lui ont manqué.
Maurice Sartre, merci. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter, podcaster cette émission. Et je vous assure, pour ceux qui peuvent être encore intimidés par le podcast, que c'est très facile. Au besoin, vous faites aider par votre entourage, par vos enfants. Vous verrez, on peut très bien podcaster et conserver pour l'éternité Concordance des temps. Samedi prochain, la première de nos rediffusions de l'été, nous reprendrons une émission avec Damien Baldin consacrée aux chiens comme animaux de compagnie. C'est une actualité de toujours et ça s'appellera, d'après une chanson de Damia, « Bonjour mon chien ». C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux concours d'Antoine Tricot et de Jeanne Guéroux, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec Clément Berman à la prise de son et Gwen Michel pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, je vais passer le relais à Dominique Rousset et à ses invités pour l'économie en question.